Bienvenue à la caserne Achard à Poitiers, où nous débutons la conférence radiophonique pour faire mieux avec moins, la sobriété foncière au service des territoires. Cette conférence est la première action de médiation de la démarche Territoire pilote de sobriété foncière, initiée à l'échelle nationale. Elle est portée en local par Grand Poitiers Communauté Urbaine et l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine et menée par l'équipe pluridisciplinaire composée de Selva et Mogin, Urban Idée, Guam et Tout Terrain en charge de la médiation. Alors Philippe Biwix, il y a un autre sujet que vous avez évoqué, c'est qu'on entend de plus en plus parler de l'acronyme ZAN pour zéro artificialisation nette. Est-ce que ce dispositif serait efficace pour un aménagement durable du territoire ?
Oui, alors la ZAN, donc là, excusez-moi, j'en ai parti un peu sur les falaises de calcaire, je sais pas quoi, on va revenir un petit peu, on commence à se recontextualiser un petit peu avec la ZAN. Donc la ZAN, qu'est-ce que c'est ? Zéro artificialisation nette. Donc c'est le résultat d'une prise de conscience réelle de la puissance publique, hein, sur justement cette artificialisation et le fait qu'à un moment, il va falloir freiner ça. Je me demande si c'est pas Nicolas Hulot qui avait essayé au moment où il était encore dans un ministère, il avait mis ça à l'agenda, je sais plus, en 2018, mais je sais qu'il n'est pas de bon ton de le citer désormais, mais voilà, je crois que c'est dans ces années-là que ça a bougé un peu, pas forcément que grâce à lui, je pense que c'était aussi la conséquence de plein de gens, de plus en plus de gens qui parlaient de ça. La ZAN, en fait, c'est un petit peu comme le ZEN, le zéro émission nette. Vous savez que la France a pris des engagements pour le climat, hein, à la COP 21 et autres, et puis vis-à-vis de l'Europe. Et donc on a une trajectoire, on a une stratégie nationale bas carbone qui nous amène à zéro émission nette en 2050. Donc ça consiste à dire qu'il va y avoir, on va considérablement, enfin il faut qu'on réduise considérablement nos émissions, mais il va rester une partie résiduelle, parce qu'on ne peut pas tomber à zéro pour plein de raisons. Et en face de ça, on va avoir des puits de carbone qui seront a priori des puits naturels, alors qu'ils peuvent être des forêts, au niveau mondial il y a les océans, etc. Voilà. Et donc on va quelque part avoir une compensation des émissions résiduelles avec un puits de carbone. Le ZAN, c'est un peu la transcription de cette idée-là, mais au territoire. C'est-à-dire de dire qu'il va falloir qu'on réduise considérablement le flux d'artificialisation. Je crois qu'il y a une étape intermédiaire à 2030, je crois, qui est de diviser par deux le flux d'artificialisation actuel. Et puis on va descendre, et il va rester quand même un reliquat, parce que voilà, il va falloir quand même continuer à faire quelques trucs à gauche, à droite. Et ce reliquat, on le compenserait avec de la renaturation, c'est-à-dire qu'il y aurait des zones déjà artificialisées, qui pourraient être d'anciennes friches industrielles, qui pourraient être, j'en sais rien, des carrières, enfin, il peut y avoir plein de choses. Plein de choses, non, justement, pas tant que ça. Et que voilà, finalement, le bilan global ferait qu'on serait à zéro artificialisation nette. Voilà. Donc ça, c'est un peu l'idée. Alors, ça vient finalement d'un autre type de mécanisme, hein, cette logique de la compensation. C'est un truc qui arrive de loin, en fait. Hein, ça arrive des États-Unis dans les années 40, je crois, avec la logique de dire, finalement, quand on a un impact sur la nature, sur la biodiversité, on ne disait pas encore biodiversité à l'époque, mais voilà, et ben il faut compenser cet impact ailleurs, et pour avoir finalement un résultat sur la biodiversité globale qui soit positif ou au moins nul. Donc ce schéma, ça s'appelle le schéma ERC en France, ça a été transcrit dans la loi, ça a commencé il y a une quarantaine d'années, et ça commence à peine à réussir à se mettre en place maintenant. Donc ERC, ça veut dire éviter, réduire, compenser. Donc en fait, quand vous allez, je ne sais pas, tartiner un parking, par exemple, vous allez commencer par dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un parking à côté quand même avec lequel je pourrais mutualiser pour éviter d'avoir à construire ce truc ? Donc normalement, à partir d'un certain seuil de projet, il y a plein de critères très complexes que Sylvain maîtrise beaucoup mieux que moi, c'est certain. Mais voilà, on doit se dire, voilà, on va essayer d'éviter d'abord, d'abord ne pas nuire. Voilà. Ensuite, on va dire, est-ce qu'on peut réduire ? Donc réduire l'impact, trouver des mesures pour réduire l'impact. Alors, si je continue à filer la métaphore du parking, là, on sort un peu du truc, mais c'est-à-dire, voilà, au lieu de faire 500 places, j'en fais 300, ou je ne sais pas quoi. Et puis, ce qu'on va pas pouvoir, ce qu'on va devoir faire quand même, qui aura un impact, eh bien, on va le compenser en allant faire des interventions dans d'autres terrains, à d'autres endroits, des terrains qui étaient éventuellement artificialisés, pollués ou autres, et puis on va creuser des creuser des mares, des machins, pour essayer d'espérer que le triton qu'on a shooté d'un côté va réapparaître de l'autre, avec éventuel transfert du dit triton. Alors, en fait, ce truc-là, sur le papier, c'est pas mal. C'est de dire, bah, finalement, oui, c'est cool, du coup, maintenant, quel que soit le projet que je fais, une nouvelle autoroute, une LGV, j'en sais rien. Bah, en fait, s'il y a un impact sur la biodiversité, on va mesurer, on va regarder. Et puis, en fait, à côté, on va refaire des trucs sympas. Bon, sauf qu'en fait, c'est loin d'être évident, cette affaire-là, parce qu'on va pas être... Enfin, c'est dur de mesurer déjà la biodiversité dans toute sa richesse. Dès qu'on touche à la question de la vie, c'est quand même un peu plus complexe, ça ne se met pas tout à fait en équation. Et puis, il faut garantir que ce truc-là va tenir sur peut-être 50 ans, 70 ans, 100 ans. Il y a des engagements qui sont pris par des maîtres d'ouvrage, par des gens qui vont réaliser les travaux. Mais bon, dans 40 ans, hein, est-ce qu'ils seront encore là? Est-ce qu'ils seront encore solvables? Est-ce qu'ils seront capables de maintenir? Parce qu'il y a des plans de gestion. Donc il va falloir en fait maintenir le milieu, par exemple ouvert, éviter que, je sais pas, la forêt revienne, etc. Parce que c'est pas toujours la forêt qui garantit le maximum de biodiversité. Hein. Ça peut être des milieux au contraire un peu ouverts, entretenus. Donc du coup voilà, il y a un peu une question sur finalement est-ce que la compensation ça marche et est-ce que la renaturation ça va marcher. Il y a une deuxième question sur est-ce qu'on va avoir un flux réel de renaturation possible, parce qu'en fait les zones qui sont déjà artificialisées, en même temps, c'est celle où on dit ah bah tiens, on va se jeter dessus parce que c'est bien de faire d'aller à cet endroit-là pour faire un projet urbain. C'est mieux d'aller le faire sur une friche, une ancienne friche industrielle, que d'aller sur des champs agricoles à côté. Donc finalement, il va y avoir une espèce de concurrence en disant ah bah tiens, je suis détenteur d'une friche, est-ce que je la renature pour artificialiser ailleurs ou est-ce que je l'utilise ? Des questions de volume aussi, hein, parce que si même si on descend, pour l'instant, encore une fois, on est peut-être à 20 000, 25 000 hectares, 30 000 hectares. 30 000 hectares, alors si on descend peut-être, on ne sait rien, à 5 000 demain, parce qu'on est très très fort, on a divisé par 6 l'artificialisation, il faudra trouver 5 000 hectares chaque année pendant le prochain siècle à renaturer, acheter des carrières, hein, si vous voulez faire fortune ou un truc, parce que ça ne va pas être évident de les trouver. Quoi. Bon. Et puis, il y a une autre question autour de la ZAN, c'est la faisabilité aussi économique quelque part. On s'est amusé à faire un petit calcul, alors qu'il y a vraiment un calcul très frelaté de coin de table, mais c'est juste pour se donner un ordre de grandeur. Imaginez qu'on prenne 25 000 hectares de terres agricoles artificialisées chaque année, ou de terres naturelles. Et imaginons qu'on dise qu'un terrain à bâtir, c'est 60 euros du mètre carré. Je prends ça, c'est peut-être 120, 130 euros à Paris, je ne sais pas combien c'est à Poitiers en ce moment. Et puis dans la Creuse, c'est 25, mais allez, juste on se fait un ordre de grandeur comme ça, on dit 25 000 hectares artificialisés avec une petite plus-value de 50 balles. Alors c'est pas forcément un paysan qui touche ça, hein. Ça peut être un descendant de paysan qui est plus paysan depuis longtemps, 3 générations, mais enfin voilà, il y a des gens qui à un moment font une plus-value, d'accord ? Alors il faut un petit peu aménager, il faut un peu tirer quelques réseaux, mais allez, on fait ça simple. Qu'est-ce que ça fait ce truc-là ? Ça fait un flux de 15 milliards d'euros par an. 15 milliards d'euros par an, imaginez que je sois un affreux collectiviste et que je dise, finalement, j'artificialise une terre, c'est pas normal qu'il y ait un gars qui fasse fortune parce que son grand-père était paysan et qu'aujourd'hui, il s'est juste donné la peine de naître. Je caricature un peu, vous voyez, je deviens un peu, je spolie un peu, tu vois, je me dis, la puissance publique, ok, on accepte d'artificialiser ça, mais alors, je prends la plus-value et je la redistribue à tous les agriculteurs, je double, voire je triple le revenu agricole. 15 milliards d'euros, c'est de l'ordre de grandeur des revenus de tous les paysans français, y compris le prince de Monaco, enfin tout le monde, tous ceux qui ont des terres en France. C'est énorme, c'est gigantesque. Donc en fait, quand on réfléchit un peu, on prend un peu de recul, c'est un peu bizarre, mais on pourrait se dire que les 50-60 dernières années, pourquoi est-ce que l'agriculture est encore en vie en France ? On pourrait dire parce qu'il y a eu des subventions européennes, bien sûr, hein, c'est des mécanismes qui sont mis en place. Mais c'est aussi pourquoi ils ont pu se payer des retraites, etc. Parce qu'on a artificialisé pendant 50 à 60 ans l'équivalent d'un département tous les 10 ans. Quoi. Donc si on arrête ce truc-là, on peut arrêter ce truc-là, il faut arrêter ce truc-là, parce qu'à un moment, c'est chaque hectare supplémentaire qu'on artificialise, c'est notre résilience alimentaire, pour employer un mot bien à la mode, qui s'éloigne. Donc c'est quand même un peu idiot. Mais pour arrêter ça, il va falloir en face, voilà, voir ce qu'on fait aussi pour soutenir la mutation du système agricole.
Ce podcast est le 4e d'une série de 6 issus de la conférence Pour faire mieux avec moins, la sobriété foncière au service des territoires, qui s'est déroulée le 6 juillet 2022 à la caserne Achard à Poitiers, dans le cadre de l'étude Territoire pilote de la sobriété foncière. Il a été réalisé par Tout Terrain, co-conçu et organisé avec Selva et Mogin pour Grand Poitiers Communauté Urbaine, l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine et la Société d'équipement du Poitou.